À mots ouverts. L'émission qui fait la part belle aux mots. Ceux qui sont dits, adressés, chantés. Une émission pour donner corps, pour donner voix. Et ouvrir plein de fenêtres sur des mondes où se font des rencontres.
Aujourd'hui, déjà un grand bonjour. Notre émission s'intitule, oui, j'ai trouvé ce titre-là, « Un ange passe ». Aujourd'hui, nous allons décoller de notre planète Terre et prendre notre envol pour accéder, peut-être, oui, je l'espère, à d'autres dimensions. Aux manettes, pour ce décollage, André et Pierre-Louis. Mais vous savez, entre apparition de ces anges dits gardiens et disparition, il y a ceux qui se penchent sur vos épaules. Il y a ceux qui passent leur chemin. Il y a ceux que l'on aperçoit dans le creux des nuages. Il y a ceux, nombreux, que l'on s'invente pour se rassurer. Il y a ceux qui déposent leurs ailes pour en faire un bouquet ou un lit de fortune. Je vous propose d'entrer, de vous glisser sous les voûtes ancestrales et de vous laisser aller à un voyage intérieur. Il est possible, peut-être, je l'espère, oui, que nous croisions ces êtres ailés et qu'ils acceptent d'être touchés. Mais attention ! Ne les effrayons pas. Ici, à chacun et chacune de pénétrer dans un lieu qu'il affectionne. Pour moi, ce sera l'abbaye du Relecq, à Plunéo-Ménez, la basilique Saint-Rémy de Reims, la chapelle Saint-Nicolas de Plufur en Côte d'Armor. Bien sûr, j'en ai d'autres en tête, mais je ne citerai que ceux-là. Écoutons les murs. Ils vont faire résonner des voix. Ce chant, je l'ai entendu sur les ondes de France Culture dans l'émission Le cours de l'histoire en date du 1er juin 2026. Il m'est allé droit au cœur. Ce chant évoque Hildegarde de Bingen. Je vous invite vraiment à découvrir ces univers, à découvrir ces espaces, à découvrir ces voyages intérieurs. Voyez, nous avons toutes et tous des anges intérieurs. Les miens sont venus à moi ce matin. Ils m'ont adressé quelques mots pour que ma plume se pose sur la page. Je vous les donne. Froide, rêver, destin, forêt, genou, aurore, vierge, aveuglant, souillé, visible, rompre, rideau, brûlure, entaille, sauvage, se recroqueviller, déchirer. Entrez dans la pénombre. Prenez un livre. L'obscurité révèle l'invisible. Allons voir. Suivons Les amours fantômes de Mathilde Domecq, lampe au bout des doigts. Autour de nous, il faut le noir, celui qui enrobe. Le noir dans lequel on se love pour trouver protection. Ensuite, il suffit d'actionner le bouton et les fantômes de nos vies apparaissent. Qui sur un vélo, qui penché sur l'épaule. Ils sont de tous les âges et offrent leur tendresse pour nous apporter consolation. Je vais ouvrir le livre et vous offrir quelques-unes des phrases en même temps que je les tourne. Je vais veiller à les effleurer à peine. Elle n'aimait le vélo que dans les descentes. Un petit coin de parapluie. Je la vois, pétillante sous les trombes d'eau. Ses premiers pas sont sûrs. Le monde s'agrandit. Toujours malicieuse dans ses tout petits instants. Elle n'est plus seule. La peur recule. Certaines pierres sont lourdes, mais tu m'as appris à les soulever doucement. Regardez, dans le noir, sur la page, quelqu'un dort. Chut! Ses yeux sont fermés, ses cheveux lâchés. Chut! Un enfant dort. Il a son pouce dans la bouche, il tient son doudou avec la main droite. Oh ! Regardez ! Il bondit, l'enfant d'un fourré. Il court à perdre haleine. Hé ! Grand-père, elles sont bonnes les cerises ? Attention, l'échelle pourrait basculer. Oh ! Qu'est-ce que tu lis, grand-père ? Qu'est-ce qui est écrit sur les pages ? Je vois que tu rêves, et l'enfant à côté dort. Il y a deux amoureux, appuyés contre le tronc d'un arbre. Ils se tiennent l'un contre l'autre. Grand-père, ta journée a été bonne ? Brosse-toi bien les dents. C'est important avant d'aller dormir. Demain, tu prendras ton vélo et tu pédaleras pour aller sur tes chemins de rêve. Dans le petit panier devant, il y aura un bouquet. Tournons maintenant d'autre page, celle de Asli Erdogan, qui dans son livre que j'ai déniché dans un petit repère la librairie café de Lampol Guimillot, l'ivresse des mots, le bâtiment de pierre. J'ai choisi de vous lire un extrait de ce livre, un des chapitres qui s'intitule tout simplement « L'ange ». D'abord, il nous faut pousser la porte d'un espace où personne ne pénètre de son plein gré, hormis les geôliers. Certains, d'ailleurs, pas les geôliers, évidemment les autres, n'en ressortent que pieds devant. L'endroit n'est pas accueillant, pas même rassurant. Là aussi, les anges adviennent, malgré tout. Voici Asli Erdogan, le bâtiment de pierre, chapitre L'ange.
L'ange.
Nous avons tous vu un ange, en divers temps, divers lieux, sur les toits battus par le vent, dans des salles vides et froides, dans des couloirs déserts, à la fenêtre d'une mansarde, en parlant aux étoiles qui passent, parmi les pierres, dépouillées de son nom, de son destin, des voix célestes quelconques, nues, en attente, désemparées. Dans les abîmes, franchissant tout seul avec un rire amer le seuil de l'éternité. Nous l'avons vu aux heures rouges comme l'aurore, comme le sang, comme le feu, dans une lumière d'or massif, dans l'éclat fluorescent, aveuglant d'une ampoule nue, dans les ténèbres opaques.
Il apparaissait et disparaissait tour à tour, voletant aux confins incertains du visible. L'un n'a remarqué que ses cheveux en désordre, semblables à la crinière d'un lion. L'autre a vu seulement ses yeux brillants comme deux étoiles mouillées dans son visage défait. Nul d'entre nous n'a pu le regarder longtemps. Peut-être avons-nous seulement discerné un trait de lumière palpitante ou senti une brise légère, vivante, chargée de printemps et du parfum des lilas. Mais il n'en fallait pas plus. Un léger battement d'ailes, une chansonnette, l'éclosion spontanée d'un instant, quelques gouttes de pluie.
Il nous a entendus. Il est promptement descendu des hauteurs célestes, les bras chargés, les poches pleines de lettres saupoudrées de poussière d'étoiles, de bonnes nouvelles, de promesses, de mélodies.
À l'un, il a rendu son enfance.
À l'autre, il a apporté une invitation à l'éternité.
À l'un, l'odeur des pins.
À l'autre, leur murmure.
Certains ont prétendu qu'ils sentaient la bête.
La rose sauvage.
La forêt vierge.
La mer après l'orage.
Mais qu'ils sentaient aussi l'homme.
L'homme.
Il nous a tous pris dans ses bras. Il nous a rassurés en nous effleurant de ses ailes gracieuses, en chuchotant, en versant quelques larmes.
Nous n'avons pas rêvé, car nous étions depuis longtemps à court de rêves. Si nous pouvions...
Mais nous ne l'avons jamais pu.
Mettre en commun toutes ces images, les échanger entre nous, nous serions capables de lui donner forme, d'achever son histoire et de la conserver. Mais peut-être ne le pourrions-nous pas, car nous l'avons perdu depuis longtemps et à tout jamais.
Il était très là, épuisé, enfoui dans la grisaille de la faim, de la soif, de la solitude. Sa tête reposait sur ses genoux, ses cheveux pendaient. Pourtant, un instant, j'ai entrevu ses yeux énigmatiques qui n'ont pas leur pareil.
Il était fait d'une autre substance que nous, de l'errance du clair de lune, de rêves, de la paire d'ailes argentées que dessine la voie lactée, de vers non formulés, d'un paradis aux couleurs du cœur et des profondeurs bien réelles de l'enfer. Levant ses yeux perdus dans le vague, il arrachait un fragment du vide et le remplaçait par un monde tout neuf. Un monde inouï, fait pour durer.
Un monde incontestable, vivant, bien réel, où tout s'affirme et s'accomplit.
Il était recroquevillé, ployé par la souffrance, mais il avait rassemblé dans son corps les causes de son mal. Ses vêtements étaient déchirés, souillés de terre et de suie. La boue qui dégouttait de ses ailes trempées formait des flaques autour de lui. Venu des hauteurs célestes, d'un lieu proche du cœur qu'il avait définitivement quitté, il parcourait en toute hâte, d'un bout à l'autre, la nuit de ce monde.
Il était très en retard.
Il avait traversé les ténèbres du monde sans même se rendre compte qu'il enterrait les vivants ou les morts. Il venait vivre parmi nous, passer la nuit, se consumer chez nous. Il connaissait bien des secrets. Il avait vu beaucoup de fautes, de miracles, de crimes et tous les carrefours de la nature humaine. Il avait tout vu. Il s'était vu lui-même en toutes choses. Il attachait de moins en moins d'importance à notre univers de sons et de concepts et c'est pourquoi il se taisait.
Soudain, il leva la tête et la rejeta vivement en arrière, comme la tête d'un pantin, au risque de se rompre le cou. Il secoua ses cheveux et l'on entendit un éclat de rire féroce. Ce rire nocturne issu des abysses se répercutait sur les murs en faisant jaillir des éclats de pierre.
Rire sauvage, farouche, grandiose, anonyme. C'était sa façon de montrer ses blessures mortelles. Fleurs rouges des entailles qui jonchaient son corps. Ecchymoses, brûlures, marques de coups aussi denses qu'une forêt profonde. Traces du sang répandu, séchant comme des roses sauvages ou coulant à plein flot comme un fleuve en crue. Ses cils ne pouvaient plus bouger.
En cet instant d'éternité, je vis son visage coupé en deux par de profondes cicatrices, sué à grosses gouttes et se muer en un masque furieux. Ensuite, sa tête retomba en avant et, en hommage aux morts,
« Ma mort ! La tienne. »
vint se poser sur ses genoux. Ses regards se brisèrent comme deux branches sèches. Des rideaux géants, venus des deux extrémités d'un monde en train de se disloquer, recouvrirent ses yeux, à nous abandonnés.
Et là, seul, vaincu, éperdu et altier, dans un ultime et immense effort surhumain, il plongea dans ses rêves. Après cette lecture, je voulais juste vous dire quelques mots de la musique que je vous ai proposée juste avant et qui émane du groupe Yorun, qui est un groupe opposant et défenseur des droits et libertés. Il paie régulièrement un lourd tribut. Le morceau s'intitulait, avec mon accent à couper au couteau, « Buyu, Erdal, Eren, Anizina ». Mais avant de vous révéler ce que j'ai écrit durant l'enregistrement de l'émission de ce jour, voilà un texte qui m'est très cher. J'ai nommé « Plume d'ange » de Nougaro. Installez-vous. Car il dure un petit moment. Installez-vous confortablement et laissez venir l'ange.
Vous voyez cette plume? Eh bien, c'est une plume d'ange. Oh, rassurez-vous, je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous le demande plus. Pourtant, écoutez encore une fois, une dernière fois, mon histoire. Une nuit, je faisais un rêve désopilant quand je fus réveillé par un frisson de l'air. J'ouvre les yeux. Que vois-je? Dans l'obscurité de ma chambre, des myriades d'étincelles. Elles s'en allaient rejoindre par tourbillonnement magnétique un point situé devant mon lit. Rapidement, de l'accumulation de ces flocons aimantés, phosphorescents, un corps se constituait. Quand les derniers flocons eurent terminé leur course, un ange était là, devant moi. Un ange réglementaire, avec ses grandes ailes de lait. Comme une flèche d'un carquois, de son épaule, il tire une plume, il me l'attend, me dit, c'est une plume d'ange. Je te la donne. Montre-la autour de toi. Qu'un seul humain te croit et ce monde malheureux s'ouvrira au monde de la joie. Qu'un seul humain te croit avec ta plume d'ange. Adieu, Et souviens-toi, la foi est plus belle que Dieu. Et l'ange disparut, laissant la plume entre mes doigts. Dans le noir, je restais longtemps, illuminé, grelottant d'extase, lissant la plume, la respirant. En ce temps-là, je vivais pour les seins somptueux d'une passion néfaste. J'allume, je la réveille. Mon amour, regarde, regarde cette plume. C'est une plume d'ange, oui, un ange était là, il vient de me la donner. Oh ma chérie, tu me sais incapable de mensonges, hein, de plaisanteries scabreuses. Mon amour, il faut que tu me croies et tu vas voir le monde. La belle, le visage obscurci de cheveux, d'araignée de sommeil, me répondit « Fous-moi la paix, je voudrais dormir et cesse de fumer ton satané Népal. » Elle me tourne le dos et merde. Au petit matin, parmi les nègres des poubelles et les premiers pigeons, je filais chez mon ami le plus sûr. Je montrai ma plume à l'Afrique, aux poubelles et, bien sûr, aux pigeons qui me firent des roucoulements de considération admirative. Je sonne. Voici mon ami André. Posément, avec précision, je vidais mon sac biblique, mon oreiller céleste. Tu m'entends bien, André ? Qu'on me prenne au sérieux et l'humanité tout entière s'arrache de son orbite de malédictions guerroyantes et funestes. À dégager, finit la souffrance, la sottise, la joie, la lumière débarque. André se massait pensivement la tempe. Il me fit un sourire ému, m'entraîna dans la cuisine et devant un café m'expliqua que moi, sensible, moi enclin au mysticisme sauvage, moi devais reconsidérer cette apparition. Le repos, l'air de la campagne, avec les oiseaux précisément, les vrais. Je me retrouvais dans la rue grondante, tenaillant la plume dans ma poche. Que dire, que faire? Monsieur l'agent, regardez, c'est une plume d'ange. Il me croit. Aussitôt les tonitruants troupeaux de bagnoles déjà hargneuses s'aplatissent. Des hommes radieux en sortent, auréolés de leur volant, et s'embrassent en sanglotant. Soyons sérieux. Je marchais, dévorant les visages. Celui-ci, la petite dame, et soudain, évidente, éclatante, l'idée m'envahit. Abandonnons les hommes, adressons-nous aux enfants. Eux seuls savent que la foi est plus belle que Dieu. Les enfants, oui, oui. Mais lequel? Je marchais toujours, je marchais encore. Je ne regardais plus la gueule des passants hagards, mais en moi, des guirlandes de visages d'enfants. Mes chéris, mes fériques, mes crédules me souriaient. Je marchais, je volais, le vent de mes pas feuilletait Paris. Pages de pierre, de bitume, de pavés, maintenant. Ceux de la rue Saint-Vincent, les escaliers de Montmartre. Je monte, je descends. Et je me fige devant une école, rue du Mont-Cenis. Quelques femmes m'attendaient la sortie des gosses. Faussement paternelle, j'attends, moi aussi. Les voilà. Ils débouchent de la maternelle par fraîche bouffée, par bouillonnement bariolé. Mon regard papillonne de frimousses en minois, qui étant une révélation. Sur le seuil de l'école, une petite fille s'est arrêtée. Dans la vive lumière d'avril, elle cligne ses petits yeux de jais, un peu bridés, un peu chinois, et se les frotte vigoureusement. Puis elle reprend son cartable orange, tout rebondi de mathématiques modernes. Alors j'ai suivi la boule brune et bouclée de sa tête, gravissant derrière elle les escaliers de la butte. À quelques cent mètres, elle pénétra dans un immeuble. Longtemps je suis resté là, me caressant les dents avec le bec de ma plume. Le lendemain, je revins à la sortie de l'école, et le surlendemain, et les jours qui suivirent. Elle s'appelait Fanny. Mais je ne me décidais pas à l'aborder. Et si je lui faisais peur avec ma bouche sèche, ma sueur sacrée, ma pâleur mortelle, vitale, alors qu'est-ce que je fais? Je me tue? Je l'avale ma plume? Je la plante dans le cul somptueux de ma passion néfaste? Et puis, un jeudi, je me suis dit, je lui dis. Les poumons du printemps exhalaient leur première haleine de peste paradisiaque. J'ai précipité mon pas, j'ai tendu ma main vers la tête frisée. Au moment où j'allais l'atteindre, sur ma propre épaule, une pesante main s'est abattue. Je me retourne, ils étaient deux. Ils empestaient le barreau. Suivez-nous. Commissariat. Vous les connaissez un peu, les commissariats? Les flics qui tapent le carton dans de la gauloise, du sandwich, une couche de tabac, une couche de passage à tabac. Le commissaire était bon enfant. Il roulait pas les mécaniques, mais les airs.
Asseyez-vous. Et il me semble déjà vous avoir vu quelque part, vous. Alors comme ça, on suit les petites filles? Quitte à passer pour un détraqué, je vais vous expliquer, monsieur, la véritable raison qui m'a fait m'approcher de cet enfant. Je sors ma plume et j'y vais de mon couplet nocturne et miraculeux. Fanny, j'en suis certain, m'aurait cru. Les assassins, les polices, notre séculaire tennis de coup dur, tout ça, c'était fini, envolé. Voyons l'objet, me dit le commissaire. D'entre mes doigts tremblants, il saisit la plume sainte et la fait techniquement rouler devant un sourcil bonhomme.
« C'est de loi, ça, » me dit-il. « C'est pas de la colombe, en tout cas. »«
Ça y est, j'ai trouvé. Vous ressemblez étonnamment à l'inspecteur Colombo. Monsieur, ce n'est pas de loi, c'est de l'ange, vous dis-je. Calmez-vous, calmez-vous. »
Mais vous avouerez tout de même qu'une telle affirmation exige d'être appuyée par un minimum d'enquête, à défaut de preuves. Enfin, écoutez, vous allez patienter un instant. On va s'occuper de vous, gentiment, hein, gentiment.
On s'est occupé de moi, gentiment. Entre deux électrochocs, je me balade dans le parc de la clinique psychiatrique où l'on m'héberge depuis un mois. Parmi les divers siphonnés qui s'ébattent ou s'abattent sur les aimables gazons, il est un être qui me fascine. C'est un vieil homme, très beau. Il se tient toujours immobile dans une allée du parc, devant un cèdre du Liban. Parfois, il étend lentement les bras et semble psalmodier un texte secret, sacré. Ah, j'ai fini par m'approcher de lui, par lui adresser la parole. Aujourd'hui, nous sommes amis. C'est un type surprenant, un savant, un poète. Vous dire qu'il sait tout, a tout connu, compris, appris, senti, perçu, percé, c'est peu dire. De sa barbe massive, un peu verte, aux poils épais et tordus, le verbe sort, calme et fruité, abreuvant un récit où toutes les mystiques, les musiques, les philosophies, les sciences humaines, les ésotérismes s'unissent, se rassemblent pour se ressembler dans le puits étoilé de sa mémoire. Dans ce puits de jouvence intellectuelle, saut, je descends, saut débordant de l'eau fraîche et limpide de l'intelligence, allié à l'amour, je remonte. Parfois il se tait et me contemple en souriant. Des plis de sa robe de bure, il sort des noix, de grosses noix qu'il brise d'un seul coup dans sa paume. Crac ! Pour me les offrir. Un jour où il me parle d'ornithologie comparée entre Olivier Messiaen et Charlie Parker, je ne l'écoute plus. Un grand silence se fait en moi. Mais cet homme dont l'ange t'a parlé, cet humain qui peut croire à ta plume, cet humain introuvable, eh bien oui, c'est lui. Il est là, devant toi. Sans hésiter, je sors ma plume. Les yeux mordorés lancent une étincelle. Il examine la plume avec une acuité qui me fait frémir de la tête aux pieds. Quel magnifique spécimen de plume d'ange vous avez là, ami. Alors, vous me croyez? Vous le savez. Parbleu, je vous crois. Le tuyau légèrement cannelé, la nacrure des barbes, on ne peut s'y méprendre. Je puis même ajouter qu'il s'agit d'une peine d'Angelus Maliciosus. Mais alors, puisqu'il est dit qu'un homme me croyant, le monde est sauvé. Je vous arrête, ami. Je ne suis pas un homme. Vous n'êtes pas un homme. Nullement. Je suis un noyé. Vous vous êtes noyé? Non. Je suis un noyé. L'arbre. Je suis un arbre. Il y eut un frisson de l'air. Se détachant de la cime du grand cèdre, un oiseau est venu se poser sur l'épaule du vieillard, et je crus reconnaître, miniaturisé, l'ange malicieux qui m'avait visité. Tous les trois, l'oiseau, le vieillard et moi, nous avons ri. Nous avons bien ri. Nous avons ri longtemps, longtemps. Le fou rire, quoi. Le fou rire.
Enfin, avant de nous séparer, pour mieux vous retrouver bien sûr bientôt, voici les mots qui ont pris forme et existence et que vous pourrez disperser aux quatre vents avec lesquels voyagent les anges. Ces mots se sont posés sur la page, comme d'habitude, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, comme le diraient les conteurs, même ceux des monts d'arrêt. Brûlure dans les herbes sauvages, rampant, bourdonnement. Tandis que l'été gonfle ses poumons, je me recroqueville. L'été déchire mes tempes, l'été déchire le temps. L'été martèle mon front et le soleil m'aveugle. Une porte s'ébrèche dans les broussailles. Verte et ouverte comme une bouche qui retient un bâillement silencieux. Je plie mes ailes pour me glisser dans les replis de verdure et je tasse mon dos contre les murs lépreux. La pénombre laisse filtrer les destins et efface les souillures. Le rêve entre en présence. Les rideaux frémissent. la jupe bariolée frivole. Ils dansent, chacun à leur manière. Tour de piste, tour de champ, tantôt à l'endroit, tantôt à l'envers, dans le sens des aiguilles d'une montre et inversement. Les bras forment des corbeilles d'argent où se mêlent les fleurs, des cercles, et l'aurore se dresse au bout de l'horizon. Je me mets à genoux et je la célèbre. À très bientôt, auditeurs, à très bientôt pour d'autres voyages.
À mots ouverts. L'émission qui fait la part belle aux mots. Ceux qui sont dits. Adressés, chantés. Une émission pour donner corps, pour donner voix. Et ouvrir plein de fenêtres sur des mondes où se font des rencontres.